7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec Julie Drouin pour le journal.
Sécurité renforcée devant les lieux de culte et écoles juives à l'approche des fêtes de Pessah. Et après l'attaque iranienne en Israël, reportage auprès de la communauté juive à Paris dans un instant. L'hommage aux maquisards du Vercors. Emmanuel Macron se rend dans le village de Vassieu en Vercors, entièrement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, la reprise des négociations entre syndicats et patronats autour, entre autres, du contre-épargne-temps des salariés.
Après le journal L'Écho du Monde, Christian Macarian vous parle du Soudan, la guerre oubliée, suivi du journal imprévisible consacré aux liaisons dangereuses des présidents américains. Enfin, David Barou se penche sur la rémunération du patron de Stellantis, dont le nombre de zéros fait grincer quelques dents. Les nouvelles tensions au Proche-Orient ont conduit la France à renforcer la sécurité autour des lieux de culte juif.
D'autant que les fêtes juives de Pessah ont lieu la semaine prochaine. Le ministre de l'Intérieur a donc demandé au préfet de prévoir une présence policière statique et bien visible devant les sites sensibles. Les militaires de l'opération Sentinelle seront aussi mobilisés. Et Fabien Albert, pour les communautés juives françaises, cette présence sécuritaire est presque devenue une habitude.
À chaque nouvelle attaque au Proche-Orient, c'est la même inquiétude: que les décisions politiques d'Israël ouvrent la boîte de Pandore aux actes antisémites. Daniel est un habitant historique de la rue des Rosiers, célèbre quartier juif de Paris.
On nous traite de génocidaires, d'assassins, les mots juifs qui reviennent souvent quand on passe dans la rue, des trucs terribles.
Qui passe sur la tête, longue barbe apparente, ce père de deux enfants redoute que les fêtes de Pessah attise la haine.
Nous sommes des citoyens français, juifs. On veut vivre nos fêtes tranquillement et ne pas pleurer. On va se retrouver dans cette table familiale, touchée, à penser à toutes ces familles qui sont endeuillées et qui vont pas avoir leurs proches près d'eux.
Dès lundi prochain, des gardes statiques surveilleront les entrées et sorties des écoles et des synagogues. Rassurant et en même temps alarmant sur l'ampleur du problème, estime Benjamin Alouche, trésorier et membre du bureau exécutif du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France.
Accompagner des enfants à l'école en présence de policiers en armes devant un établissement scolaire, ça n'a rien de rassurant pour les enfants à l'âge qu'ils ont.
Il dénonce une atmosphère délétère.
On ne se sent pas tranquille quand on va faire ses courses dans les commerces cachers, quand on rentre ou quand on sort de la synagogue. Le nom sur la boîte aux lettres, la présence de la mezouza à l'entrée de la porte justifie une agression antisémite.
Depuis le début de la guerre à Gaza, les actes antisémites ont, selon le CRIF, bondi de 1000%.
Un reportage signé Fabien Albert.
Et hier, Israël a confirmé son intention de riposter à l'attaque iranienne sur son territoire.
Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger l'État d'Israël, a déclaré le chef d'état-major de l'armée israélienne. Reste maintenant à savoir quand et comment. Plusieurs scénarios sont évoqués, dont des attaques contre les alliés de l'Iran, les Houthis du Yémen et le Hezbollah libanais. La crainte d'ailleurs d'un nouveau front entre Israël et le Liban grandit. Le Hezbollah en a les moyens, mais ce n'est pas sa stratégie, selon Didier Leroy, chercheur à l'École royale militaire de Belgique.
La composante armée du Hezbollah, eh bien la milice alimentée par l'Iran, qui est la mieux équipée, la mieux entraînée, et ce depuis plus de 4 décennies. On parle d'un arsenal qui comprendrait entre 130 et 150 000 roquettes et missiles. Le Hezbollah pourrait pénétrer les défenses antiaériennes israéliennes en tirant de nombreux projectiles de manière simultanée, de manière à noyer les radars qui détectent les roquettes et les missiles en question.
Des propos recueillis par Lauriane Toulmont. Aux États-Unis, premier jour du procès au pénal de Donald Trump, avec la difficile sélection des jurés hier. L'ancien président américain, de son côté, qualifié ce procès d'être une attaque contre l'Amérique. Le milliardaire est inculpé pour 34 falsifications de documents comptables de son entreprise.
En France, nouvelle étape du cycle mémoriel pour les 80 ans de la Libération, le président Emmanuel Macron se rend dans la Drôme, dans le village de Vassieu en Vercors.
Ce village de 330 habitants constitue un haut lieu de la résistance maquisarde, totalement détruit par les nazis en juillet 1944, ce qui lui a valu le titre de village compagnon de la libération. Et Charles Ducrot, Emmanuel Macron est le premier président qui y fera une commémoration officielle.
Un hommage aux maquisards et à tous ceux qui se sont soulevés pour la liberté. L'Élysée veut faire de ce temps mémoriel un moment d'unité et de transmission des valeurs de la République. République une et indivisible, référence maintes fois évoquée lors des hommages qui se sont multipliés ces derniers temps. Cette fois, l'Élysée assume une référence aux divisions du passé en choisissant la date du 16 avril qui marque l'arrivée à Vassieu-en-Vercors de milices françaises. Référence sera-t-elle faite aux divisions actuelles et au passé du Rassemblement national qui se renforce à l'approche des européennes ? Emmanuel Macron souhaite s'inscrire en protecteur de la mémoire de ses résistants de Vassieu, 201 morts et 41 déportés, et marquer les esprits au pied du monument dédié aux martyrs dans ce village du Vercors, où seul le général de Gaulle a fait une halte dans les années 60.
Un début de la cérémonie à partir de 15h. Emmanuel Macron s'était déjà rendu au début du mois sur le plateau des Glières, un autre maquis décimé par les Allemands, ainsi qu'à la maison Dizieux où des enfants juifs furent raflés par la Gestapo. L'apogée de cet anniversaire de la libération aura lieu en juin prochain en Normandie.
L'Union des entreprises de proximité convie les partenaires sociaux à une nouvelle séance de négociation aujourd'hui.
Une semaine après l'échec des discussions autour du nouveau pacte de vie au travail entre les syndicats et le patronat. À l'ordre du jour ce mardi, le compte épargne-temps universel qui permettrait aux salariés d'épargner tout au long de leur carrière les jours de congé non pris. Mais il sera aussi question des questions liées à l'emploi des seniors, Zoé Pallier.
Premier grief pour l'Union des entreprises de proximité, l'abandon du CETU, le compte épargne-temps universel. Les deux autres organisations patronales n'en veulent pas. Le président de l'UDP, Michel Picon, y voit lui un progrès social, mais surtout un outil d'attractivité pour les petites entreprises. Sur ce sujet, il avait déjà prévu de renégocier avec les syndicats, mais depuis, l'ordre du jour s'est étoffé. Il sera aussi question de reconversion professionnelle pour les seniors. Attitude déloyale, de concert, le MEDEF et la CPME qui sécheront la réunion aujourd'hui. Si l'on signe, ce sera surtout symbolique, soupire de son côté Cyril Chabanier de la CFTC, car en termes de représentativité, l'UDP ne pèse que 5% contre 69% pour le MEDEF. L'organisation peut donc bloquer un potentiel accord. L'objectif est surtout politique. Il s'agit de peser sur le gouvernement qui prépare un futur projet de loi travail.
Des précisions signées Zoé Pallier. Le nombre de morts sur les routes en France plus élevé qu'en mars 2023. Le chiffre est en hausse de 30%, mais il reste stable si l'on compare aux 12 derniers mois.
Face à la crise de la filière bois, le gouvernement lance un plan national pour soutenir cette filière.
Le ministre de l'Agriculture l'a annoncé hier lors d'un déplacement dans les Vosges où il venait constater l'épidémie des scolytes, ces petits insectes qui déciment nos forêts et se propagent de plus en plus vite à cause du dérèglement climatique. À cela s'ajoutent les épisodes de sécheresse. La filière était en souffrance, Jeanne Serrin.
Si l'épidémie est apparue en 2018 dans le Grand Est, elle touche désormais la quasi-totalité des forêts d'épicéas de Bourgogne et d'Auvergne, avec comme conséquence directe des pertes de revenus pour les propriétaires forestiers, pouvant aller jusqu'à 50%. Alors pour les accompagner dans cette crise, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, sort le chéquier avec une priorité, mieux valoriser les bois infectés. Frédéric Lévy est directeur commercial de l'ONF Grand Est. Dans sa région, un tiers du volume commercialisé est touché par une infection.
Au niveau, par exemple, de l'épicéa, c'est un bon bois pour la charpente. Quand il est attaqué par les scolytes, le bois n'est pas dégradé, mais il bleuit. Et il y a du coup des gens qui disent « Oh là là, c'est bizarre, ce bois il est bleu, j'en veux plus ».
Les bois trop infectés, eux, pourront désormais servir aux centrales biomasse. Toutes ces annonces ont été bien reçues par les professionnels du secteur. Nicolas Bernard est vice-président de l'Association des entrepreneurs forestiers du Grand Est.
Ces aides permettront aux propriétaires et aux gestionnaires de pouvoir réinvestir de façon à renouveler, recréer une forêt adaptée à l'évolution climatique que nous sommes en train de vivre.
Pour financer les replantations, le ministre avance une enveloppe de 500 millions d'euros par an et un bonus pour les secteurs les plus touchés.
Merci Jeanne Serrin. L'hommage national rendu hier à l'écrivaine Maryse Condé, le président Emmanuel Macron a salué l'attachement intranquille de la Guadeloupéenne à la France, autrice de ses goûts et de la vie sans phare. Maryse Condé, décédé début avril à l'âge de 90 ans. Et puis la très attendue flamme olympique va s'allumer aujourd'hui, à presque 100 jours du début des JO, lors d'une cérémonie inspirée de l'Antiquité qui se tiendra à Olympie en Grèce. C'est le grec Stéphanos Tsitsipas qui sera le premier à la porter, suivi de la championne olympique Laure Manaudou. Début d'un périple qui l'amènera à Paris le 26 juillet pour la cérémonie d'ouverture des JO.
Julie, on vous retrouve à 8h30 pour le rappel des titres. À suivre l'écho du monde, Christian Macarian nous parle de la guerre au Soudan, un conflit oublié qui cherche lui aussi sa solution. Radio Classique, 7h.